Et les 18h30 à Paris et sur RFI, c'est l'heure du débat avec Romain Ozoui. Bonsoir Romain.
Bonsoir Véronique, on parle de la Russie dans le monde ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Oui, car parmi les grands enseignements de la chute du régime syrien, il y a l'échec de la Russie. Depuis 2015, Moscou n'avait eu de cesse de soutenir le président Bachar al-Assad et Moscou a totalement impuissant assisté à la victoire des rebelles de HTC. La raison, eh bien, l'Ukraine, la guerre en Ukraine qui monopolise les forces russes. Seulement voilà, les conséquences pourraient être très importantes. Notre question ce soir, est-ce que la Russie est-elle en train de perdre son influence? Où en est la bataille de l'opinion pro-russe dans les anciennes républiques soviétiques notamment? Alors qu'en Géorgie par exemple, eh bien, les manifestations en faveur de l'Union européenne se poursuivent. Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, mes trois invités. À mes côtés en studio, Ulrich Bouna, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe centrale et de l'Est, chercheur associé chez Open Diplomatie. Face à vous, Florent Parmentier, bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire général du CEVIPOF Sciences Po, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors. Et notre troisième invité en ligne avec nous, bonsoir Lucas Aubin.
Bonsoir.
Docteur en études slaves, spécialiste de la géopolitique de la Russie, auteur du livre « Géopolitique de la Russie ». Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors, j'évoquais l'impuissance de la Russie face à la victoire des rebelles de HTC, face à l'effondrement du régime syrien. Cela révèle quoi, selon vous, Ulrich Bouna, cette impuissance constatée?
Ça révèle qu'effectivement, comme vous l'avez dit, la plupart des ressources militaires de Moscou sont engagées sur le front ukrainien et que donc effectivement, la Russie a du mal à gérer deux fronts, sans faire de mauvais jeu de mots. Il faut bien comprendre que l'une des forces, notamment de la Russie en Syrie, c'était sa capacité à faire des frappes aériennes de façon massive. On était à peu près sur une quarantaine d'aéronefs russes basés notamment à Himeimi pour faire des bombardements sur, on va dire, les zones rebelles en Syrie. La guerre en Ukraine a fait tomber ce chiffre à une dizaine. La plupart des matériels et des hommes qui étaient russes qui étaient situés à l'étranger, même en Asie centrale, ont été rapatriés sur le front ukrainien parce que la Russie manque d'hommes et de matériel. Et donc, effectivement, cette absence d'avions, cette absence aussi de bombes sur les avions a fait qu'effectivement, la Russie ne pouvait pas faire grand-chose pour sauver le soldat Bachar el-Assad. Et donc, effectivement, la Russie a dû constater plus qu'autre chose et être spectatrice dans la chute de Bachar el-Assad.
Clairement, vous diriez que l'Ukraine monopolise les forces aujourd'hui du géant russe?
Oui, militairement, oui. Oui, très clairement. Très clairement. Il faut bien comprendre qu'actuellement, la Russie perd à peu près autant d'hommes, voire même un peu plus qu'elle n'en recrute tous les mois pour son armée. Et elle n'a plus la capacité actuellement de projeter ses forces ailleurs. Alors, elle projette sa puissance d'autres façons, mais militairement, effectivement, elle n'est plus capable de gérer un autre front que l'Ukraine à l'heure actuelle.
Sur la Syrie, est-ce qu'aujourd'hui, les nouvelles autorités, donc HTC, peuvent prendre le relais de Bachar al-Assad et bénéficier en fait d'un même soutien russe?
C'est une vraie question. L'avenir stratégique de Tartous, et donc la base navale de Tartous russe, que les Russes ont depuis les années 70, hein, donc qui n'était pas forcément non plus complètement lié à Bachar el-Assad. La base aussi d'Imeimi, c'est fondamental pour la Russie. Sans la base de Tartous, sans la base d'Imeimi, la marine russe ne peut plus se projeter dans les mers chaudes. Ça va être très compliqué d'avoir un pont aérien vers les régimes sahéliens soutenus par Moscou. Donc il est probable que la Russie va essayer de tout faire, va essayer de s'arranger avec HTS pour essayer de conserver ces bases-là. La question, c'est finalement, que donnera Moscou en contrepartie? Je pense que c'est un jeu qui est encore très difficile de prédire l'avenir. Ça va dépendre aussi de beaucoup de choses. Si les États occidentaux, si les États du Golfe décident de s'investir massivement dans en Syrie, ça peut aussi rééquilibrer les choses et finalement rendre le nouveau régime syrien beaucoup moins dépendant d'une éventuelle aide russe.
Mais du coup, ça peut aussi se retourner contre la Russie. Il y a un petit peu la course au soutien à la Syrie. La Russie peut arriver derrière.
À mon sens, c'est effectivement un peu ce qui se joue. C'est-à-dire que si jamais, effectivement, les États occidentaux ou les États du Golfe ne décident pas de s'investir pour la reconstruction de la Syrie, par exemple, il est possible qu'effectivement, la Russie cherche à en profiter, mais un petit peu comme dans d'autres zones du monde où la Russie a profité du retrait occidental.
Florent Parmentier, de quoi est-ce qu'on peut attendre de la part de HTC à l'égard de la Russie? Parce que ce groupe, historiquement, était traité de terroriste par la Russie. Quelle peut être son attitude aujourd'hui face à la Russie, historiquement soutien de Bachar al-Assad, que évidemment HTC a renversé. Le porte-parole russe aujourd'hui affirme qu'il y a des contacts avec HTC. Sur quoi ça peut déboucher ?
Ce qu'il faut observer, c'est que les talibans, en 2021, quand il y a le retrait américain, ont assez vite pris contact avec la Russie, là où on ne l'attendait pas forcément. La question peut-être qu'il y a un angle mort est celle de savoir jusqu'où la Turquie a aidé le développement de la situation, en sachant que la Turquie a à la fois ses propres intérêts en Syrie et a poussé certainement une partie d'acteurs politiques qui peut-être suivront la Turquie jusque très loin ou peut-être s'autonomiseront par rapport au parrain turc. Mais ce qui a été frappant et ce qui a été observé aussi bien dans le Caucase, aussi bien en Libye et aussi bien en Ukraine, c'est la capacité de la Turquie et de la Russie à discuter, à avoir des approches qui sont souvent différentes, mais à trouver un espèce de modus vivendi. Et donc la question qui, évidemment, est à se poser, à laquelle on n'a pas de réponse encore à ce jour, c'est de savoir si dans l'effondrement du régime Bachar el-Assad, est-ce qu'il a été lâché en amont par la Russie, qui certes regardait à la fois ailleurs pour des raisons qu'on a mentionnées, mais finalement a pu se dire, eh bien finalement, si les Turcs avec lesquels je travaille sur d'autres domaines me garantissent le maintien de sécurité, alors je les laisse dans ce cadre-là. C'est pas sûr. Peut-être que c'est le cas. Peut-être
c'est un bon espoir pour la Russie, en tout cas, de miser peut-être sur la Turquie, parce qu'évidemment, la Turquie, elle a une place forte face à la Russie demain. Et il y a ce processus d'Astana dont fait partie la Russie et la Turquie. Il y a l'Iran également.
Je ne sais pas si la Russie a misé sur la Turquie ou si elle a discuté en amont avec la Turquie, de manière à avoir au moins quelques assurances par rapport à la question des bases. C'est une question, en fait, qui est encore, à ce jour, non élucidée.
Le rôle de la Turquie va être central pour la Russie, Ulrich Bouna, dans les futures relations avec la Syrie?
Je pense qu'il va être central pour l'avenir de la Syrie, mais effectivement, ça peut être effectivement une solution pour Moscou, effectivement, de revenir un petit peu par la fenêtre. D'ailleurs, on l'a vu, hein, lorsque la Russie a souhaité évacuer ses bases, en tout cas une bonne partie de ses bases et de ses matériels, donc certes, il y a des navires qui ont pris la mer, mais une partie des matériels a été justement évacuée avec l'accord tacite, on va dire, de la Turquie pour justement faire partir ses hommes et ses matériels. Donc oui, il y a des échanges entre les deux. Après, encore une fois, les deux pays arrivent des fois effectivement à s'entendre sur certains sujets, mais ils ont vraiment des visions divergentes sur l'avenir de la Syrie. Donc il est probable que, je pense, enfin, vu l'importance stratégique de ces bases pour la Russie, Moscou va sans doute essayer de jouer sur toutes les cartes possibles, tous les leviers possibles, et un de ces leviers, c'est effectivement Ankara.
Mais comment ça peut se traduire? Parce que, comme on dit, à quel point est-ce que la Russie aujourd'hui a les moyens de s'engager, de s'investir auprès de la Syrie, monoponisée comme elle l'est, comme vous l'avait dit Ulrich Bouna, par la guerre en Ukraine?
En fait, il faut bien comprendre que la Russie... Là, finalement, je dirais que l'aide russe à la Syrie changerait de domaine. Il n'y a plus besoin véritablement d'aide militaire. Je pense que pour le coup, le régime étant tombé, on passerait sur tout à fait autre chose. Effectivement, la Russie pourrait tout à fait proposer, par exemple, je sais pas, des céréales à la Syrie ou ce genre... D'ailleurs, ils fournissaient déjà des céréales à la Syrie, mais on pourrait imaginer effectivement un certain nombre de partenariats sur un certain nombre de domaines énergétique, éventuellement des matières premières, qui pourraient éventuellement aider le régime. Après, effectivement, c'est pas la Russie. La Russie ne propose pas, si vous voulez, une capacité à investir de façon pérenne dans une économie, à faire développer une économie. En revanche, elle peut fournir un certain nombre d'éléments de base, des matières premières, qui, effectivement, peuvent aider un pays à redémarrer.
Et je posais à Florent Parmentier la question des relations de HTC, les nouvelles autorités syriennes, vers la Russie. À quel point est-ce que finalement elles n'ont d'autre choix que de se tourner vers la Russie, parce que comment survivre? Alors, il y a aussi, j'ai l'impression, certains pays qui se pressent entre guillemets au portillon. Il y a Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui est en tournée aujourd'hui en Turquie. Donc évidemment, il est question de la Syrie.
Non, mais complètement. J'ai l'impression, en tous les cas, après, on ne peut pas prédire l'avenir, mais il semble quand même que les nouvelles autorités syriennes sont extrêmement pragmatiques. Il y a un ennemi désigné, c'est l'Iran, le Hezbollah. Ça, je pense qu'il n'y aura pas de transition par rapport à ça. Ils ne transigeront pas par rapport à ça. En revanche, effectivement, par rapport au reste, vu les besoins immenses pour reconstruire la Syrie, je pense que tous les pays qui souhaiteront apporter, effectivement, seront les bienvenus. Donc, dans ce cadre-là, il va probablement y avoir une course. On peut imaginer que les États du Golfe vont essayer de remplacer l'Iran comme partenaire, comme soutien des nouvelles autorités à Damas. Et effectivement, la Russie, dans ce cadre-là, peut jouer un rôle. Mais encore une fois, ça va dépendre aussi. La Russie, en général, arrive à jouer un rôle dans des États qui ne sont plus soutenus ou ne sont plus dans les radars des pays occidentaux. Mmh. Donc, si les Occidentaux ne décident pas s'investir en Syrie, ça peut servir Moscou.
Mais alors, si l'ennemi désigné, comme vous le dites, par les nouvelles autorités syriennes, c'est l'Iran, jusqu'à quel point est-ce que la Russie a sa place, qui a quand même une certaine proximité avec l'Iran ?
Effectivement, c'est vrai, mais ça n'empêche pas l'Iran de jouer d'autres cartes. Finalement, lorsqu'on regarde un petit peu le positionnement d'Israël, on voit bien que malgré la proximité entre Moscou et Téhéran, malgré cela, les Israéliens arrivent à avoir des discussions assez, on va dire, prolifiques avec les Russes sur différentes thématiques, les frappes en Syrie, la déconfliction... Et ce genre de choses. Et pour le coup, les Israéliens ne sont pas engagés en Ukraine, justement, pour éviter de froisser Moscou. Donc, on voit bien que c'est des jeux, au Moyen-Orient, des jeux à plusieurs bandes. Et donc, finalement, être allié avec un sur un certain nombre de sujets n'obère pas le reste, en fait.
Florent Parmentier, vous, vous pensez jusqu'à quel point est-ce que les nouvelles autorités syriennes sont capables de s'affranchir du soutien russe ?
Si on regarde les choses en matière, faudrait, je pense, séparer les différents éléments. En matière militaire, très probablement oui. Ouais. Encore que on peut penser que
oui, parce que
tout n'est pas stabilisé.
Il n'est plus le même, c'est ce que disait Ulrich Bouna. Mais il y a d'abord un enjeu économique aujourd'hui en Syrie.
Et qu'une fois qu'on a tapé le Raïs, eh bien, encore une fois, les différents groupes auront un moment ou un autre besoin d'assurer leur propre sécurité. Et s'ils assurent leur propre sécurité, si les Alaouites se disent qu'ils ne seront pas bien protégés, si les chrétiens se disent qu'il vaut mieux partir du pays maintenant avant d'être... etc., on risque d'avoir une situation interne peu stabilisée, un peu comme ce qu'on a pu observer en Libye. Et donc, il y a ce risque-là. L'équation militaire, dans ce cas, n'est pas totalement réglée. En tout cas, la stabilité, l'ordre sécuritaire n'est pas totalement réglé. Et vous avez raison, en revanche, d'insister effectivement sur l'idée que la Russie n'était pas un bon candidat pour aider à reconstruire la Syrie. Elle n'a pas aujourd'hui l'envie,
les moyens.
Le désir et les moyens. Ouais. Il y a une différence entre effectivement ce qui relève des intentions de la Russie en termes d'influence et ce qui relève des réalisations. La Russie peut exploiter des vulnérabilités dans les pays qu'elle considère comme hostiles. Elle peut essayer d'encourager le maintien du pouvoir au sein des pays qu'elle considère comme étant alliés. Et c'est à peu près cette ligne-là qu'il faut regarder. En matière économique, c'est bien ce qui a été mentionné. C'est-à-dire, la Russie n'est pas un acteur de la reconstruction. Très vraisemblablement, on ira plutôt chercher du côté des pays du Golfe, peut-être de certains pays occidentaux, peut-être de la Chine qui aura elle aussi des liaisons et des liens à développer pour en quelque sorte participer à cette reconstruction-là. Et dans ce cadre-là, évidemment, le rôle de la Russie sera bien moindre que ce qu'elle n'a pu être d'un point de vue sécuritaire avec une compréhension de ce qu'est la politique régionale de la Russie, c'est-à-dire qu'elle a à la fois des pays effectivement dont elle est proche et dont le régime de Bachar el-Assad était l'incarnation. Mais il ne faut pas oublier que en Israël même, il y a une minorité de russophones importante, l'ordre de 15%, et qu'ils ont une influence dans la prise de décision politique en Israël. Et donc, on va voir très certainement des instrumentalisations réciproques entre Israël, qui soutiendra très vraisemblablement les Kurdes pour envoyer une pierre dans le jardin des Turcs. Des Turcs qui très opportunément soutiendront plutôt les Gazaouis pour expliquer qu'ils sont de tout cœur avec les Gazaouis. Et au milieu de ça, la Russie essaiera très probablement de trouver des moyens de parler aux deux.
Donc si je résume ce que vous dites jusqu'à maintenant, rien ne garantit en tout cas que la Russie aura une place dans la Syrie de demain. Si on élargit, on a évoqué avec Ulrich Bouna l'Iran. Parce que la question ce soir, c'est est-ce que la Russie perd son influence, pas uniquement en Syrie, mais dans le monde ? Ou en tout cas, de la Syrie, est-ce qu'elle perd son influence aussi un peu plus dans le monde ? À quel point est-ce que la Russie peut compter sur l'Iran aujourd'hui ?
Elle a pu compter sur l'Iran militairement, la dronisation de l'armée russe, en quelque sorte, s'est faite avec les drones Shahed, et ça compte dans les éléments. Est-ce que ça peut aller au-delà et en fait, il y a une alliance très objective. Il y a eu dès le début du régime de la révolution islamique en 1979, l'idée c'est que le grand Satan c'est les États-Unis, c'est pas l'Union soviétique, ce qui peut surprendre dans la mesure où l'Union soviétique était un régime non seulement séculier, mais athéiste. Et donc, ça peut surprendre de la part d'une révolution islamique. Mais au-delà de ça, elle va être vraiment testée. Jusqu'à présent, il y avait une forme de continuité entre l'intervention russe en 2015 en Syrie, le développement d'un partenariat qui remonte à un certain nombre d'années avec l'Iran, et puis ce qui pouvait se passer par ailleurs. Là, il est vrai que la Russie perd un point d'ancrage qui est assez important. Après, économiquement, ce qu'on a vu, c'est que la Syrie n'était pas l'interlocuteur principal sur le plan économique des Russes. C'est qu'en matière de contournement de sanctions, par exemple, il y a beaucoup plus d'appui, de relations avec les Émirats arabes unis qu'avec la Syrie. Donc là-dessus, en fonction des différents dossiers, j'allais dire que les actions russes dans la région sont à la baisse, mais les cartes vont certainement être déployées avec d'autres prises de position, et on verra dans quelques mois ce qu'il en sera. Ce qui est certain, c'est que le futur président Donald Trump, à ce stade, n'a pas une confiance illimitée non plus dans la Syrie et qui ne sont pas, je cite, ses amis.
Donc une multiplication des acteurs, en tout cas, et qui peut se faire évidemment au détriment de la Russie. Car notre question ce soir, dans le débat du jour, la Russie est-elle en train de perdre son influence? Évidemment, on tire les enseignements de la chute du régime du président syrien Bachar al-Assad, qui était soutenu depuis 2015 par la Russie. Mes trois invités, Ulrich Bouna, analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe centrale et de l'Est, chercheur associé chez Open Diplomatie, Florent Parmentier, secrétaire général du CEVIPOF Sciences Po, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors, et Lucas Aubin, docteur en études slaves et spécialiste de géopolitique et de la Russie. Lucas Aubin, je voudrais vous donner la parole à présent. Vous qui êtes justement spécialiste de la géopolitique et de la Russie, on a évoqué au début de l'émission rapidement avec Ulrich Bouna l'influence évidemment de la guerre en Ukraine qui monopolise, selon ce que vous nous avez dit Ulrich Bouna, les forces russes. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette guerre, le président russe Vladimir Poutine est possiblement en train de, entre guillemets, tout perdre? Lui qui avait son rêve de grande Russie, on va aussi poser la question de l'influence russe dans les anciennes républiques soviétiques, est-ce qu'elle recule? À quel point est-ce qu'on est peut-être dans un tournant sur cette question-là aujourd'hui?
C'est un peu toute la question, effectivement. C'est-à-dire que pour la Syrie, c'est évidemment une forme de bataille perdue pour Vladimir Poutine, même si évidemment ça n'est pas la guerre plus générale qu'il mène. On le sait, sa guerre, c'est plutôt une guerre, lui, contre l'Occident collectif, comme il l'appelle, et donc il cherche à réunir un certain nombre d'alliés autour de lui pour pouvoir diffuser son influence. Le problème, c'est que généralement, l'influence qu'il réussissait à diffuser, elle se faisait sur des points d'équilibre. On pouvait le voir au sein de l'espace post-soviétique, des influences au sein de certaines anciennes républiques soviétiques. Je pense évidemment à la Moldavie, je pense évidemment aux pays d'Asie centrale, au Bélarus, etc., etc. Le problème, c'est que la guerre en Ukraine a déstabilisé cet équilibre qu'il cherchait à avoir et cette influence qu'il cherchait à diffuser. Aujourd'hui, la Russie est une puissance qui est crainte, en tout cas par ses voisins, hormis évidemment le Bélarus qui reste très spécifique. Et de fait, ce qu'on observe, c'est que finalement, la plupart de ses voisins cherchent à multiplier leurs partenariats, regarder à la fois vers la Chine, à la fois vers l'Union européenne, à la fois parfois vers les États-Unis. Alors évidemment, il faut regarder acteur par acteur, bien entendu, mais ce que je veux dire par là, c'est que de plus en plus, on cherche à s'émanciper de cette tutelle de Moscou, de l'ombre, en fait, de l'Empire soviétique et, plus ancien encore, de l'Empire des Tsars. Donc, on est à un moment un peu charnière, mais ça ne signifie pas pour autant, évidemment, que la Russie va perdre complètement toute cette influence. On le sait, la Russie est une puissance opportuniste, elle est capable de réagir, mais évidemment, pour le moment, ça a été rappelé, hein, bien entendu, tous les yeux sont rivés, toute la puissance militaire, ou en tout cas une bonne partie, sont concentrés sur la guerre en Ukraine.
Mais dès lors, par exemple, quand le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, dit aujourd'hui que la menace russe se rapproche de nous à grande vitesse, c'est un fantasme, une inquiétude, mais qui n'est pas rationnelle. Encore une fois, si toutes les forces russes sont jetées dans la guerre en Ukraine.
Non, c'est complètement rationnel parce que justement, il n'y a pas que les forces militaires. La Russie mène également ce qu'on appelle une guerre hybride, même si c'est une expression un peu fourre-tout, mais en d'autres termes, elle cherche à utiliser un certain nombre de moyens pour déstabiliser les puissances occidentales et notamment les puissances ouest-européennes et aussi évidemment d'Europe centrale. On l'a vu très récemment hein, dans un certain nombre d'élections qui ont eu lieu en Moldavie, qui ont eu lieu en Géorgie, mais qui ont aussi eu lieu encore plus récemment, je crois, en Roumanie. On le voit, ça peut fonctionner parfois. Et ça peut fonctionner en Serbie, par exemple. Le pouvoir est plutôt favorable à la Russie. Et ça peut se vérifier dans un certain nombre d'autres pays d'Europe où on peut observer des partis généralement d'opposition, mais pas toujours, qui sont favorables au régime russe et qui suivent ou subissent même parfois cette influence, justement cette influence russe. Et ensuite, il faut rajouter un autre élément à cette diffusion d'influence. Elle n'est pas uniquement politique, elle est aussi médiatique, elle est aussi informationnelle. Le but de Moscou, c'est aussi de pénétrer les espaces informationnels des pays occidentaux, et pas uniquement, mais aussi des pays occidentaux, pour justement diffuser son narratif, semer le doute, semer le trouble, et potentiellement donc diviser pour mieux régner, et évidemment chercher à pouvoir à ce moment-là apparaître comme un allié potentiel contre d'autres puissances occidentales.
Alors, Ulrich Bouna, c'est intéressant le bémol entre guillemets que nous met Lucas Aubin en disant que finalement c'est la puissance militaire russe qui est freinée par la guerre en Ukraine, mais la Russie exprime sa puissance par plein d'autres domaines, et notamment on en vient à cette question de la bataille de l'opinion. Qui est un cheval de bataille très important pour le président russe. Elle en est où, cette bataille de l'opinion? Parce que, notamment dans les anciennes républiques soviétiques, et ailleurs aussi, en Europe, on a quelques pays, Hongrie, Slovaquie, qui sont plutôt sur une ligne pro-russe, mais en Afrique aussi, il y a aussi énormément de pays avec la présence de Wagner. Est-ce qu'on arrive à évaluer si cette influence-là, cette partie de l'influence russe, elle est elle progresse ou est-ce qu'elle est en recul?
Déjà, je suis complètement d'accord. Effectivement, la Russie projette sa puissance de différentes façons et si militairement, elle est complètement engluée en Ukraine, en revanche, effectivement, et je dirais même que parce qu'elle est engluée militairement en Ukraine, elle est de plus en plus agressive en fait, vis-à-vis des pays occidentaux, effectivement, contre l'Occident collectif, comme l'a dit Lucas Aubin. Et donc, effectivement, elle multiplie, alors comme elle ne peut pas véritablement attaquer militairement, elle multiplie les attaques, mais de d'autres façons, donc, notamment dans l'espace informationnel. C'est très difficile de répondre sur la capacité véritablement russe à façonner complètement les opinions. C'est assez variable d'un pays à l'autre, vous l'avez dit. Mais en fait, ce qu'il faut surtout bien comprendre, c'est que je dirais que la capacité russe d'influence informationnelle elle est d'autant plus importante qu'ils arrivent à bien comprendre et à bien jouer sur des fractures qui existent déjà dans les pays. Lorsque la Russie fait de la campagne informationnelle en Afrique et qu'elle joue sur le sentiment anti-français, c'est parce qu'il y a des raisons historiques qui font qu'une partie de la population va être sensible à ce genre de message. Lorsqu'elle communique en Roumanie ou en Hongrie sur le fait que la guerre en Ukraine c'est pas bien et qu'il faut être pacifiste, ça joue sur des cordes sensibles en fait d'une partie de la population qui souhaite être pacifiste. Donc finalement, je dirais que la puissance de la capacité à influencer des Russes au point de vue international, elle dépend aussi en fait fondamentalement des fractures au sein des différents pays. Et plus un pays va être fracturé, typiquement la Moldavie par exemple, qui est un pays très fracturé, eh bien, plus ces pays sont fracturés et plus finalement la Russie va arriver à jouer de ces fractures et donc plus son influence va être importante.
Et comment ça se traduit en gain en fait cette campagne informationnelle pour la Russie concrètement? En quoi est-ce que ça renforce la Russie?
Il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de paralyser les pays de créer en tous les cas des dissensions internes qui font que les pays ne sont plus capables de prendre véritablement des positions fortes contre la Russie. Donc ça, c'est un premier point. On voit des pays, typiquement la Roumanie, hein, si on prend l'exemple de la Roumanie dont on vient de parler tout à l'heure, il faut bien comprendre qu'on en est à un stade où, complètement inédit, où le premier tour de la présidentielle a été annulé potentiellement parce que les Russes ont fait... c'est démontré, il y a eu des influences, des opérations d'influence informationnelle. Donc on voit bien, et ça va probablement créer justement des remous en interne, des gens qui vont estimer qu'on leur a volé leur vote, etc. Donc un pays, ça bloque des pays, premier point. Et deuxième point, dans certains pays où effectivement ça peut être encore plus important, on peut arriver à avoir finalement des coalitions qui peuvent arriver au pouvoir et qui vont potentiellement être pro-russes. Alors, il n'y a pas tant de pays que ça, mais on peut penser à la Moldavie, les élections législatives de l'an prochain. Il est probable que les Russes vont mettre le paquet pour que les partis politiques qui, pour le coup, sont vraiment complètement alignés avec Moscou, arrivent à une majorité. Effectivement, à ce moment-là, on aura un basculement, on va dire, de certains pays pas dans l'orbite russe, mais effectivement dans une espèce d'entre-deux qui est finalement, je dirais que tout ce que la Russie arrive à enlever à l'Occident et aux pays occidentaux, c'est toujours ça de pris.
Lucas Aubin, face à la multiplication des acteurs qu'on a évoqués aujourd'hui dans le monde, évidemment, toujours plus en plus importante, est-ce que la méthode russe qu'on évoque ce soir est toujours adaptée, est toujours pertinente, est toujours porteuse de fruits pour la Russie de Vladimir Poutine ?
Alors, je crois qu'on est rentré dans une ère où, effectivement, l'émotion est parfois plus importante que l'information. Et en termes d'émotion, ce que peut transmettre la Russie par le biais d'un certain nombre d'attaques informationnelles peut parfois être assez puissant. Alors évidemment, la question des gains, elle est toujours difficile à évaluer, etc., bien entendu. Mais c'est quelque chose sur lequel, en tout cas, le Kremlin sait très bien surfer. Alors, le Kremlin n'est pas le seul acteur à faire ça, on le voit. Hein, Donald Trump a été élu, par exemple, en bonne partie sur l'émotion, justement, sur la façon de dire des choses, mais pas sur le contenu, justement, de ce qu'il racontait. Et je crois que, finalement, la façon de faire de la politique de Vladimir Poutine aujourd'hui, de diffuser son influence, d'être dans une forme de guerre hybride, de chercher à diviser, jouer sur les fractures, parfois unir, parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire que lui, il parle effectivement d'Occident collectif d'un côté, mais de majorité mondiale de l'autre, c'est-à-dire les pays non occidentaux pourraient être unis contre l'Occident. C'est un peu son fantasme et son idée, même si c'est évidemment bien, bien plus complexe que ça. Néanmoins, en jouant sur toutes ces fractures, effectivement, on peut imaginer qu'il réussira à avoir un certain nombre de gains à un moment donné, de là, effectivement, après, à redevenir peut-être la grande puissance que l'URSS l'était à l'époque. Évidemment, il y a un pas que je ne franchirai absolument pas. Néanmoins, ça ne signifie pas du tout que ces stratégies ne sont pas efficaces. Au contraire.
Florent Parmentier, d'un mot, est-ce que la campagne anti-Occident, elle est toujours d'actualité ? Et est-ce que la Russie est le meilleur pays pour mener cette campagne aujourd'hui ?
C'est un pays qui a un intérêt vital dans la mesure où elle est engagée en Ukraine dans un conflit qui, d'après ce que disent la Russie estime ne pas être en guerre contre l'Ukraine. Cette guerre contre l'Ukraine aurait pu être gagnée rapidement, mais en guerre contre l'Ukraine dans le cadre d'une guerre par proxy, par intermédiaire interposé. Dans ce cadre-là, oui, la Russie est aujourd'hui la partie la plus vocale. Et on a pu lire dès le début de la guerre en 2022 des gens comme Karaganov, l'un des maîtres à penser des discours de politique étrangère russe, qui disait en substance, nous allons devoir en quelque sorte montrer l'exemple au reste du monde qui sinon ne bougerait pas, etc. Donc, grosso modo, ça fait. Enfin, la Russie s'est positionnée comme ça depuis un certain nombre d'années. Et donc, maintenant, elle est en plein dans cet état d'esprit-là. Ce qui peut rendre pessimiste à court terme quant à la perspective d'une fin de guerre en Ukraine. C'est-à-dire, si elle est prête à lâcher la Syrie, c'est peut-être, un, qu'elle est affaiblie, deux, qu'elle met vraiment l'essentiel de son effort de guerre jusqu'à un point de culmination contre l'Ukraine. Et donc, c'est là-dessus où, si vous voulez, dans la mesure où la situation, on peut estimer que la situation dans quelques semaines, la prise de position la prise de pouvoir de Donald Trump ne mènera pas du jour au lendemain à un accord de paix. Des négociations ont certainement lieu en sous-main avec énormément d'acteurs, mais il faut bien reconnaître que la Russie, pour l'instant, se positionne sur ce créneau-là.
Bon, en tout cas, la Russie est en train de perdre son influence. En tout cas, il y a ce risque-là avec évidemment la guerre en Ukraine et face à cette multiplication des acteurs internationaux qui ne volent pas tous vers un même pays. Merci beaucoup à vous trois, Ulrich Bouna, Florent Parmentier et Lucas Aubin. Merci d'écouter RFI. Dans une minute, ce sera le grand journal du soir. Et puis juste après, ce sera Afrique Soir. Dans 30 minutes, bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Au sommaire, ce soir, un rapport de Human Rights Watch sur les violences contre les civils au Mali.
Oui, l'organisation de défense des droits humains documente de nombreux cas d'exactions commises par les groupes djihadistes, mais aussi par l'armée et ses supplétifs russes du groupe Wagner.
Suspension de la BBC au Niger.
La radio anglophone aurait publié, selon les autorités de Niamey, des bilans non officiels concernant les dernières attaques attaques dans le pays, dont celle perpétrée à Chatouman. Des affirmations infondées selon les autorités de Niamey.
Et puis le dossier qui sera consacré ce soir dans Afrique Soir à l'accord entre l'Éthiopie et la Somalie.
Et oui, accord entre Addis Abeba et Mogadiscio sur un accès à la mer pour l'Éthiopie. C'est l'épilogue d'une série de négociations sous l'égide de la Turquie annoncée hier par Ankara.
Ah, dans 30 minutes, Zéphirin Kouadi.